Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 16 juin, petite journée pluvieuse.
Ça va en être une grave,
c'est
je crois.
C'est un peu d'histoire de mai, un peu d'histoire de juin, une belle journée. Ben ici, c'est, on a plein de soleil, hein? On a du soleil sous forme de voyage, de nature, de science.
Oui.
Et du soleil aussi dans mon studio actuellement avec André-Étienne.
Bonjour.
André-Étienne, resplendissant retour de voyage.
Oui, ça fait du bien, ça.
Ah, oui, tu comprends. Alors, André.
Alors, moi, je vais vous parler de trois choses, notamment. Un numéro de Science et Avenir qui parle du génie des animaux. C'était tellement passionnant que je me suis dit, il faut absolument que je partage ça. Je vais vous parler également de Tampa Bay. Je ne suis pas une fanatique de la Floride, mais j'ai été enthousiasmée par cet article que m'a envoyé une de mes amies. Et puis, une nouvelle découverte de chercheurs canadiens qui créent une enzyme. Je ne vais pas vous dire ce qu'elle fait, mais elle est miraculeuse.
Ah, on va tout apprendre un peu plus tard.
Oui.
De mon côté, vous savez, je vous ai parlé de grandes réussites architecturales. Je vous ai parlé de la Camden Tower la semaine passée, je crois. Et maintenant, on est dans une perpétuelle course à la hauteur. Et ce n'est pas nouveau, ça. On verra que ça date de longtemps.
Il va même y avoir la course à la hauteur à Québec, à la ville de Québec, n'est-ce pas?
Ah oui, aussi. Ben oui, ça, c'est nouveau.
Ça nous gagne.
Un titre évocateur qui me touche beaucoup. Épidémie de voyage.
Oh oui, ça te colle bien à la peau.
Oui, absolument.
Des questions
et
à se poser.
On a parlé un petit peu de la Californie, hein, la sécheresse en Californie. Mmh. Alors, apparemment, la Californie a soif.
Oui.
Et on verra de quelle façon, particulièrement. Ben, restez avec nous.
Alors, c'est donc un numéro de Science et Avenir, un numéro hors série du mois de mars-avril 2015 qui s'appelle « Le génie des animaux ». C'est un numéro qui parcourt le règne animal par thématique. Et je vous avoue qu'il en propose 7, tous aussi passionnants les uns que les autres. Et je me propose de vous en présenter une thématique chaque semaine dans notre volet nature. Ce sont les propos du professeur de biologie Gouillon à Agro-Paris Tech, qui ont été recueillis par Aline Kiner et Dominique Leglu. Alors, un des objectifs de ce numéro, c'est de montrer que la complexité biologique et cognitive des animaux n'est pas liée à l'espèce ou à sa proximité avec l'homme, mais au milieu dans lequel ils évoluent, aux problèmes qu'ils rencontrent et aux solutions qu'ils y apportent. Alors, le professeur Gouillon donc soutient, et je cite textuellement, « le génie, c'est la sélection naturelle et les prodigieuses capacités des animaux qui sont le fruit d'un mécanisme évolutif d'une grande simplicité, mais infiniment riche et créateur d'intelligence. » Et il précise que, lorsqu'il parle d'intelligence, il veut dire que c'est au sens de solutions apportées à des problèmes difficiles. Alors, la première thématique qui est proposée, c'est celle de l'architecture, et donc voici quelques exemples. En premier lieu, les termites. Donc, ce professeur a observé des termites qu'il appelle macrothermes, qui sont d'une sous-famille qui a la particularité d'édifier de gigantesques cathédrales de terre dont la cheminée centrale atteint plusieurs mètres de haut, et ceci en terre mâchée.
Et il y a une raison pour laquelle ils construisent comme ça, sous forme de cathédrale?
Oui, c'est absolument le mot qui est utilisé dans l'article, hein, je l'ai repris.
C'est évocateur.
Oui, mais alors, ça, je vais vous expliquer le problème pour répondre à la question de Michel. Ces termites sont confrontés au même problème que les hommes, à savoir gérer la qualité de l'air dans leur habitat et la température. Pour une raison, c'est qu'ils se nourrissent exclusivement d'un champignon qu'ils font pousser au cœur de la termitière. Lesquels champignons ne peuvent pousser qu'à la température de 27 degrés Celsius, très précisément.
Intéressant ça.
Oui, c'est donc une relation symbiotique, hein. Aucun des deux, les champignons ou les termites, ne peut vivre sans l'autre. Ils sont vraiment symbiotiques. Si jamais la température s'écarte trop, les champignons meurent et donc, par conséquence, la perte de la colonie. Il faut signaler que la température moyenne où sont construits ces nids, puisque ce sont leurs nids, hein, franchit généralement les 35 degrés Celsius dans la journée, mais peut être aussi glacée la nuit. C'est en Afrique. Vous voyez un petit peu la difficulté du problème posé. Alors le système, il est très élaboré. Imaginez d'abord donc cette très haute cheminée qui est, elle, hors du sol. Cette cheminée en question, je vous signale, je disais qu'elle était très haute et je laissais planer la question, elles peuvent mesurer jusqu'à 8 mètres. Par contre, dans le sol, il y a un puits très, très profond qui est d'environ 70 mètres. J'ai bien dit 70, je ne me suis pas trompée, hein, il n'y a pas un zéro trop.
Hein? Ah, oui.
Voilà, parce qu'ils veulent atteindre la nappe phréatique.
Ah, oui.
Alors, au niveau du sol, ils créent de petites ouvertures qui permettent d'aspirer l'air extérieur et dans la cheminée, l'air est évacué par des conduits d'aération. Donc, l'air chaud monte, ce qui génère des courants d'air dans la partie inférieure où vivent les indispensables champignons. C'est tout un réseau de galeries qui permet de maintenir donc la température des fameux 27 degrés.
C'est fascinant, ça.
Oui, c'est fascinant. Hein? Alors, l'article mentionne d'ailleurs que les hommes se sont inspirés de ces structures pour construire d'imposants bâtiments comme East Gate Center d'Harar dans le Zimbabwe, Queen's Building en Grande-Bretagne, etc. Ils ont même aussi étudié la texture du revêtement de la cheminée en question parce qu'ils considèrent que c'est un véritable béton organique avec d'étonnantes propriétés de résistance. Alors, le second exemple, ce sont les alvéoles des abeilles à miel. Leur pavage hexagonal, que Darwin d'ailleurs jugeait absolument parfait, économisant la main-d'œuvre et la cire.
Et est-ce qu'on sait comment l'abeille peut réussir à façonner une géométrie impeccable de sa niche?
Ben, c'est vraiment toute la question qu'il voulait comprendre, parce que dans ces niches, évidemment, on le sait, elles stockent le miel, le pollen et les œufs. Alors, selon les chercheurs, c'est ce que dit l'article, le secret de ces ingénieuses bâtisseuses, puisque c'est ainsi, réside dans la maîtrise de leur chaleur corporelle. Lorsqu'elles commencent, les alvéoles sont cylindriques. Et sous l'effet de la chaleur, la cire, ramollie, peut s'écouler à la jonction des alvéoles voisins. Et ceci permet de les souder entre eux sous forme d'hexagone. C'est la chaleur,
oui,
donc, de la cire.
Oui, c'est très étonnant.
C'est étonnant, hein? Parce qu'elles doivent, évidemment, mais c'est là le miracle, elles doivent s'activer avec la plus grande précision où c'est nécessaire, à la jonction des alvéoles. Donc, elles chauffent, elles pétrissent, elles amincissent la cire exactement où il faut, et c'est-à-dire au point de contact avec les alvéoles voisins, jusqu'à ce qu'elles atteignent les fameux 45 degrés Celsius. C'est la température à laquelle elle se transforme en un visqueux liquide. Un autre exemple, je vais vous le présenter assez rapidement, ce sont les castors. On sait que ce sont de grands bâtisseurs.
Ah oui.
Ce sont de véritables techniciens hydrauliques qui inondent des zones boisées pour agrandir leur habitat et garder l'entrée de leur hutte sous l'eau bien à l'abri. C'est dans le plus vaste parc national du Canada, qui fait 45 000 km² quand même, qu'un consultant canadien a repéré un édifice exceptionnel. C'est un barrage long de 850 mètres qui serait le plus long du monde. Et ce qui est le plus intéressant quand on parle de bâtisseurs, c'est le fait que les castors non seulement les construisent, mais aussi qu'ils entretiennent continuellement cette construction. Alors, je vous donnerai quelques informations pourquoi c'est extraordinaire, comment ils entretiennent cette construction dans la partie seconde.
Ah, voilà.
Parce que c'est un article assez long que je voulais vous présenter absolument.
Puis ouais, mais c'est élagué, fascinant.
Mais c'est fascinant.
Oui,
alors je vous en parlerai tout
réserve.
À l'heure.
Oui.
Voilà, à tout à l'heure.
Alors, de la suite dans les idées, hein, parce que je vais vous parler d'une perpétuelle course à la hauteur après avoir parlé des termites.
Bon, voilà, bravo.
Voilà, mais ici, on ne parle pas des termites, cependant. Donc, c'est tiré de Science et Vie. C'est un hors-série aussi, décembre 2014. Je vous avais parlé, entre autres choses, de la Kingdom Tower, qui est en Arabie Saoudite, est en construction actuellement, qui va être terminé en 2016 et qui dépasse 1 000 mètres de haut. Alors, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. On dirait que c'est nous qui viennent de dire ça. Ben, cette phrase du mythe de Babel résume étonnamment une tendance qui s'inscrit durablement dans notre histoire architecturale. Et dès l'Antiquité et à l'époque des tout premiers rois égyptiens, le projet de construire des bâtiments les plus hauts possibles était déjà présent. Qu'on pense simplement à la célèbre pyramide de Khéops.
Ben oui.
Quand même 146 mètres de haut, hein? Et c'est,
oui,
on se rend compte que c'est pas nouveau. Alors, à l'époque, le désir des pharaons d'ériger des structures hautes était avant tout motivé par des raisons symboliques. La volonté d'associer dans un même édifice le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel.
On l'a vu avec les cathédrales, hein, aussi.
La même chose. Ce fut le temps où les cathédrales partirent à la conquête du ciel.
Oui.
Entre autres choses, je pense à la cathédrale d'Ulm, qui, du haut de ses 161 mètres, donc on dépasse Khéops, hein, ça reste encore aujourd'hui la plus haute des églises du monde.
Ah oui?
161 mètres. Alors, la révolution industrielle à la fin du 19e siècle va bien sûr changer la donne. À commencer aux États-Unis. Pays neuf qui va s'inventer un décor nouveau. Alors, en 1871, à Chicago, subit un incendie ravageur. Son centre-ville se retrouve presque complètement détruit. Alors, lors de sa reconstruction, des architectes et des ingénieurs, notamment un inventeur de la construction à ossature, qu'on a appelé, ossature en acier, il propose de s'appuyer sur les dernières connaissances techniques pour édifier des structures verticales qui vont dépasser les classiques immeubles qui étaient à l'époque de 5 ou 6 étages. Il pense notamment profiter de l'invention de l'ascenseur, par un monsieur qu'on connaît même aujourd'hui, qui est M. Otis. Et ça remonte à 1853, hein? C'est pas d'aujourd'hui.
Ben non.
Ils argumentent leur projet en montrant que les tours de grande hauteur peuvent apporter une réponse efficace dans un contexte où il fallait construire vite pour loger une population en pleine croissance.
Mais Michel, dites-moi, quels ont été les premiers bâtiments qui ont profité de cette invention? Parce que c'est pas tout un virage, hein, dans
absolument. Et c'est pas nécessairement des bâtiments qu'on connaît bien aujourd'hui. Le premier bâtiment, c'est le Home Insurance Building, qui sort de terre en 1884.
Oui,
incroyable quand même,
oui,
1884.
Oui.
Et son allure, sa structure est déjà en acier. Et il atteint plus de 40 mètres de haut.
Oui.
Qui, à l'époque, était quand
à
même phénoménal.
Hein?
Il devient le premier gratte-ciel au monde.
Ouais.
D'autres constructions en acier vont apparaître à Chicago, excusez-moi, à Chicago particulièrement, mais aussi à New York.
Ben, bien sûr, j'imagine.
En 1890, pour nous situer un peu dans le temps, le New York World Building va grimper à 94 mètres. Donc, c'est toujours plus haut. Hein?
Oh, c'est plus que le double.
Absolument. Et vous avez par la suite le Manhattan Life Insurance Building, 106 mètres. Donc, ça, c'est historique, parce qu'on vient de dépasser le 100 mètres.
Oui, oui.
Aujourd'hui, on parle de 1000 mètres. Hein? Et en 1931, ah, ben là, on tombe dans des édifices qu'on connaît, parce que vous avez l'Empire State Building.
Wow, wow, oui, c'est
380
ça.
Mètres.
Combien de temps ils ont mis pour le construire?
Ça, je trouve ça absolument fascinant. Quand on pense aux travaux qu'on a chez nous aujourd'hui, ça a pris 410 jours de travaux.
Un peu plus d'un an.
Un peu plus d'un an.
Wow, fabuleux.
C'est fascinant, hein?
Oui.
Et il va garder sa suprématie mondiale jusqu'en 1972. Et à ce moment, ça va être le World Trade Center, avec ses deux tours jumelles qu'on connaît bien, hein, de 410 mètres de haut.
Qu'on connaissait bien.
Qu'on connaissait, oui, c'est ça, très bien. Alors, à cette époque, et depuis les années 50, l'acier est encore utilisé comme matériau de construction, mais le béton armé, qui a été inventé en 1850, devient le matériau prépondérant pour fabriquer des ossatures des tours. Alors, l'histoire des gratte-ciels se joue essentiellement au cœur des grandes villes américaines à ce moment-là. Mais des grandes villes européennes comme Francfort, Paris s'y mettent aussi. C'est ainsi qu'en 1973, après 10 ans de vifs débats, vous en connaissez quelque chose, vous avez, à cause de son intégration dans le paysage, vous avez la tour Montparnasse qui sort de terre avec 210 mètres de haut.
Je rentre de Paris, puis je peux vous dire que...
Déjà, on connaît l'opinion. Alors, vous avez la tour Montparnasse, bien sûr. Mais du côté de l'Asie et du Moyen-Orient, c'est seulement à partir des années 1990, donc c'est très, très récent, que les projets de tours vont se mettre à fleurir en réponse à un développement démographique et urbain fulgurant. C'est un moyen aussi pour certains dirigeants ou investisseurs d'afficher leur puissance, leur richesse. Et bien sûr, pour les architectes, une chance de faire preuve d'audace. Et pour les industriels, une occasion d'innover aussi. Et vous avez le fameux gratte-ciel, la tour Taipei. La tour Taipei 101. Ben pourquoi elle s'appelle 101? Parce qu'elle a 101 étages.
Juste ça.
Et c'est la première à dépasser en 2004 le demi-kilomètre en atteignant 509 mètres de hauteur. Alors, on parle de la tour Taipei, mais c'est aujourd'hui, et j'en ai déjà parlé, vous avez la plus haute tour au monde actuellement, c'est le Burj Khalifa, que j'ai eu l'occasion de voir, d'être à côté, à Dubaï, qui atteint actuellement 828 mètres de haut. Et c'est baptisé Khalifa en l'honneur de l'émir d'Abu Dhabi, qui a payé pour la tour Khalifa. Et en termes de coût, on dépasse le 1 milliard de dollars, hein? Et je vous parle, mais je vous parle aussi, je vous ai parlé déjà d'une tour qui atteint maintenant, c'est-à-dire qui va atteindre en 2016 1000 mètres.
Je ne voudrais pas habiter là-haut.
Oui, parce qu'elle se déplace, j'ai déjà mentionné, elle se déplace de 2 mètres en hauteur. Et c'est apparemment la limite de confort.
Pour le moment.
Absolument.
Et c'était tiré de confort ou d'inconfort. Hein?
C'était tiré de Science et vie en série de décembre 2014.
Merci.
Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin, je veux voir comment c'est là-haut, garde mon bras et tiens ma main, un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller encore plus loin, laisse mon bras et tiens ma main, je n'irai pas plus loin qu'il faut, encore un pas. Encore un saut, une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas. Encore un saut, et je suis là, là-haut. Si je ne tombe pas, non, j'y suis, je ne tombe pas. C'est bon, c'est bon. Si tu voyais le monde,
Mathieu,
au fond là-bas,
me donnerais-tu les coordonnées de cette chanson? Bon, enfin, c'est génial, hein?
C'est bon,
oui, attends, attends.
Bon,
un peu plus haut, un peu plus loin.
La mer, plus petite que moi.
Oh, bon, bon. Franchement, Mathieu.
Mais tu ne me vois pas. Je ne veux pas être loin tout seul. Viens voir ici comme on est bien. Quand on est haut, comme on est loin. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter. Comment descendre sans tomber. Un peu plus haut, un peu plus fort. Encore un saut. Essaye encore, je voudrais te tendre les bras, mais tu es trop loin, je suis trop bas. Encore un pas, un petit pas, tu es trop loin,
je t'aime. Adieu, je reviendrai si je redescends sans tomber. Oh, oh, c'est bon. C'est bon. Plus loin. Je veux aller encore plus loin. Peut-être bien.
Mathieu,
vous
avez entendu mon intervention. Je demande à Mathieu de me donner les coordonnées précises. Je ne voulais pas faire d'erreur. Un peu plus haut, cette merveilleuse chanson de Jean-Pierre Ferland et qui faisait référence à l'article de Michel.
Oui, qui avait fait un tabac sur la montagne à un certain moment donné avec Ginette Renault.
C'était
quelque chose d'extraordinaire.
Ben, elle est extraordinaire en soi. Alors écoutez, donc je vous avais promis la suite des capacités constructives, donc architecturales des castors. Et c'est avec quelques informations complémentaires dont je veux vous parler maintenant. Alors d'abord, ce qui a été noté, c'est qu'en 1990 déjà, des images satellites montrent que ce fameux barrage donc de 850 mètres existe. En 1975, on ne l'observait pas encore. Ça veut dire qu'entre-temps, ils ont donc construit. En 2014... un explorateur du nom de Rob Mark, qui a fait une marche de 15 km qu'il a jugée comme la plus éprouvante de sa vie, même que celle des expéditions en Amazonie, peut admirer de près l'édifice et confirme qu'il continue d'être entretenu par les propriétaires. Mmh. Et c'est ça, quand on parle d'architecture, c'est qu'ils ne font pas juste que construire, ils entretiennent leur architecture.
Oui, oui, ce qu'on ne fait pas toujours.
Ce qu'on ne fait pas toujours, exactement.
Malheureusement.
Alors, et en 2011 ou 2012, on n'est pas très sûr, les clichés aériens montrent que sa longueur n'a pas augmenté. Par contre, un peu plus à l'est, les castors construisent deux autres petites retenues d'eau qui pourraient probablement fusionner et ne former plus qu'un seul barrage qui atteindra alors 950 mètres.
Incroyable.
Vous comprenez que l'article parle, et je cite exactement textuellement, des grands travaux de techniciens zélés. Mmh. Alors, un autre exemple que je voulais partager avec vous, un modèle de prodige architectural, c'est le nid à toute épreuve du tisserin Baya. C'est un passereau qui vit en Asie, du Pakistan jusqu'à Java ou Sumatra, et dont la structure centrale abrite la chambre de ponte qui est prolongé par un long tunnel de 30 à 45 cm. C'est quand même très long pour un passereau. Donc, ça interdit l'accès aux prédateurs. Et ce qui était rigolo, c'est qu'on parlait, Michel et moi, de l'article, du début de l'article, et il me disait que les serpents, il essayait de grimper dans des termitières, et les gens du coin lui avaient dit « Ne montez pas aux termitières, il peut y avoir des serpents là-dedans.
Oui. »
Mais ce qui est intéressant, justement, dans la construction de ce tunnel, c'est que sa forme de poire, donc sa structure en forme de poire, freine les ardeurs des intrus, y compris celles des serpents.
Amen.
Alors, pour confectionner le nid, le mâle utilise uniquement des herbes qu'il taille en longues lanières de 30 à 60 cm, et il faut entre 500 et 1000 lanières pour un nid. pour séduire une femelle. L'art du tisserand ne suffit pas, précise l'article, puisque la situation du nid compte plus que l'esthétique. Donc toujours l'architecture, on choisit l'espace où on va construire. Et un mâle qui aurait travaillé en hauteur dans un arbre épineux ou sur une branche épaisse multipliera ses chances. Donc c'était un nouvel exemple. Et un dernier modèle d'architecture animale, le fil de l'araignée. Bon, le fil de l'araignée. On sait que l'araignée a un fil qui est très solide. Hein. Il est même comparé en certains cas à la solidité de certains fils d'acier. Mais à la différence des insectes qui n'utilisent ce fil que pour fabriquer des cocons autour de leurs larves, elles s'en servent, elles, pour au moins une demi-douzaine d'usages différents. D'abord, les araignées, elles ont un talent pour élaborer ce qu'ils appellent des chausses-trappes adaptées au terrain. C'est qu'elles tissent vraisemblablement leur toile depuis leur apparition sur la Terre, c'est-à-dire 380 millions d'années. Donc, elles ont de l'expérience.
Hein? Oui, elles tissent un peu partout, hein? Oui, n'importe où.
Exactement. Quelques d'autres propositions d'utilisation de ce fil. Elle construit donc et tient entre ses quatre pattes, on parle de l'épère classique, un piège redoutable pour des insectes volants. On connaît les embrouillaminis de fibres dont la tégénère des corneaux caves à l'intention des cloportes.
Oui.
Les toiles spermatiques des mâles, elles sont imbibées de leur sperme que les femelles viendront collecter. Donc vous voyez un peu toute cette architecture des toiles.
Dans la toile d'araignée même.
Voilà, c'est ça. Bon, toutes ces constructions sont réalisées avec la soie de l'araignée et donc un cocktail de différentes protéines, d'acides aminés, d'enzymes aux performances inégalées. Donc, il s'agissait d'un article de Science et Avenir de mars-avril 2015, dont le sujet est le génie des animaux. Le thème, c'est l'architecture. Dites-nous si ce sujet vous intéresse, parce que d'autres thèmes sont encore traités, comme le langage chez les animaux, la séduction, la ruse, la politique, la compassion et l'intelligence collective. Je veux juste ajouter un petit truc, c'est que la lecture de ces articles m'a aussi permis d'apprendre que les mots « termite » et « alvéole » sont masculins.
Ah oui?
Oui, mais qu'ils peuvent quand même être utilisés au féminin.
Ah, j'avais remarqué en cours de route, c'est ça.
Voilà.
J'avais fasciné par les castors et le barrage de 850 mètres.
Hein? Qui va devenir 950 mètres, hein?
Alors, j'espère que nos sujets vous intéressent. Hein. Il y a des choses vraiment à découvrir à l'intérieur des sujets dont on parle. Alors, on découvre nous-mêmes.
Ben oui, exactement. C'est pour ça qu'on voulait partager avec vous.
C'est très riche. Ben, restez avec nous. On a d'autres choses intéressantes à vous proposer.
Oui.
Écoutez, Kiosque Magazine.
Alors, épidémie de voyage. Moi, je me sens un peu...
Oui, on connaît ton goût pour les voyages.
Et c'est tiré de texte de Fabienne Couturier dans la presse du 18 avril. Alors, selon l'Organisation mondiale du tourisme, le nombre d'arrivées dans les aéroports du monde a atteint 1,138 milliards de passagers en 2014. Et c'est une hausse de presque 5 % par rapport à 2013. Et on prévoit encore une augmentation d'environ 4 % en 2015. Bien, l'homo viator n'est pas en voie de disparition, hein? Et parmi les hordes de voyageuses qui parcourent la planète, les Canadiens ne sont pas en reste. Selon Statistique Canada, en 2000, on va faire une comparaison, en 2000, on a fait 18 millions de séjours dans les 15 pays les plus visités. Et en 2012, ce sont les statistiques qu'on a, on est passé à 30 millions, donc de 18 à 30 millions.
Mais comment ça peut s'expliquer? Parce que c'est phénoménal quand même, le nombre de voyages que font les Québécois.
Bien, c'est pas seulement pour les Québécois, mais pour l'ensemble de la population des voyageurs. C'est surtout, je dirais, les internautes qui sont sollicités en permanence par des invitations au voyage, des blogs, des médias sociaux et des choses semblables.
D'accord,
et toute
d'accord.
La publicité qui entoure aussi. Mmh. Et il y a un phénomène de mode, d'une certaine façon.
Hein. C'est vrai.
On entend parler de voyage continuellement.
Oui.
Dans un rapport intitulé « Les Québécois plus sorteux qu'avant », c'est assez éloquent, hein? La Chaire en tourisme, c'est un sondage réalisé en 2004 chiffres. Et dans lequel seulement, et on parle des Québécois, en 2004, 27 % des Québécois ont dit qu'ils avaient fait un voyage à l'étranger. Et au cours des années précédentes. En 2014, donc 10 ans plus tard, on est passé à 41 %. Donc, de 27 % à 41 %. C'est un bond considérable, hein?
Ouais.
Et non seulement le nombre de Québécois qui font au moins deux voyages par année a beaucoup augmenté, mais ils sont aussi de plus en plus nombreux à faire jusqu'à 6 voyages actuellement. C'est là qu'on parle d'épidémie de voyage. De plus, les agences de voyage en ligne, aussi pour répondre à ta question tout à l'heure, comme hotel.com, Expedia.ca et d'autres sites, facilitent l'achat et la préparation des voyages et l'expérience à destination. Parce que c'est de plus en plus facile. Hein?
Ouais, oui,
avec
ça.
Un clic, on peut comparer, on a les prix directement. Le web a permis le phénomène du fractionnement des vacances. Partir plus souvent, moins longtemps. Ça permet aussi l'achat de dernière minute, voire l'achat impulsif. Je connais de plus en plus de gens qui, à deux jours d'avis, partent maintenant.
Ouais, c'est sûr, si on est disponible, là, on peut partir puis faire des affaires
incroyables.
On a même,
je voyais, des voyages proposés, de, par exemple, à Cuba, pour donner un exemple, de 4 jours ou 5 jours.
Wow!
À des prix
juste histoire d'aller se faire bronzer un petit peu.
Absolument. Vous partez, vous décrochez.
4-5 jours.
Plutôt que partir 2 semaines, ben vous le faites 2 ou 3 fois. Et les prestataires de services peuvent faire sur des sites spécialisés des salles d'éclair aussi, ouais, qui inciteront certains clients à saisir l'occasion. Ben, autant de facteurs qui favorisent ce qu'on peut appeler la contagion.
Oui.
Est-ce que c'est grave, docteur? Le directeur du laboratoire de recherche à l'UQAM sur le comportement social a cherché à définir ce qui fait que les gens qui s'investissent dans telle ou telle activité en tirent bien-être, enrichissement personnel, valorisation, ou au contraire, est-ce qu'ils deviennent des performeurs, des gens qui sont désireux de performer, que l'activité devient presque une obligation?
Oui. Est-ce qu'on peut distinguer l'un de l'autre, la passion du voyage pour le voyage?
Ben, ce qu'il nous dit,
la performance.
Je me fie à lui, c'est tant que la passion du voyage existe en harmonie avec les autres domaines de la vie, l'amour, par exemple, que la personne s'y engage librement et en tire un vrai plaisir, un réel plaisir, un enrichissement global, on parle d'une passion harmonieuse.
Oui.
J'espère que c'est ce que j'ai
dit. J'évitais le commentaire.
Alors, ce serait le cas des personnes pour qui le voyage est une occasion de se recentrer, de se ressourcer, d'apprendre, de communiquer, de rencontrer d'autres personnes. Mm-hmm. Mais quand une personne organise tout autour de sa passion, qu'elle sacrifie de grands pans de sa vie, par exemple sa vie amoureuse, on parle alors de passion obsessive. L'individu ne la vit plus librement. Il n'en est plus le maître. Il n'en tire plus vraiment de plaisir, mais il continue quand même à s'y adonner. Alors, par exemple, le voyageur qui coche les destinations comme d'autres une liste d'épicerie a la seule fin, non pas de s'accomplir, mais d'accomplir. Ce qui prédispose une personne à la passion obsessive dépend de plusieurs variables. Ça, c'est notre directeur de laboratoire qui nous en parle. D'une manière générale, on peut dire que ce sont des personnes perfectionnistes à outrance,
oui,
qui manquent de confiance en elles. Elles sont soucieuses de plaire, d'être populaires. Alors, le voyage obsessif, par exemple, pourrait accumuler, le voyageur plutôt, pourrait accumuler les destinations exotiques pour se valoriser aux yeux des autres, pour être quelqu'un dans une société où il est bon de bon ton, d'avoir voyagé loin et beaucoup. Or, partir loin juste pour dire qu'on y est allé, ça dénature l'expérience,
oui,
bien sûr. Donc, c'est une façon différente. Mais, en fait, dans tous les cas, comme le mal est incurable et, en définitive, il est assez bénin, autant se résigner et de l'accepter. Et c'est ce que je continue à faire.
Bonne maladie, allez.
Alors, c'est tiré d'un texte de Fabienne Couturier dans la presse du 18 avril.
Merci. Bon, alors, je vous avais promis donc un texte qui est tiré de la presse mobile du 10 juin et qui est écrit par Sylvain Sarrazin. Je vous avoue que j'ai été conquise, Michel, par la maladie. touchée par la maladie, j'aurais envie d'aller à Tampa Bay.
Ah.
Et l'article, c'est rigolo d'abord, parce qu'il commence, je vais vous lire textuellement ce qu'il dit. Il dit « Ravalons rancune et amertume. Ce n'est pas parce que Tampa Bay a hâtivement éliminé nos glorieux qu'il faut nécessairement bouder la Floridienne. Celle-ci a tant de divertissements à offrir, culturels ou gastronomiques, qu'ils feront rapidement oublier nos Habs foudroyés. »
Oui, mais les Habs ont été vengés parce que Tampa Bay a perdu hier.
Ah bon, d'accord. Moi, je ne suis pas assez près de la chronique sportive. Alors d'abord, il parle de l'hôtel Tampa Bay, et dont il dit même que c'est l'éveil de la ville. Et il dit que sa silhouette unique et longiligne qui se dessine depuis le centre-ville a été érigée en 1891 par le magnat local du chemin de fer pour dynamiser la ville. C'est le cœur de la cité et il accueille aujourd'hui le musée Henry Plant ainsi qu'une partie de l'université de Tampa. Son cachet est très original, des somptueuses salles qui ont été conservées ainsi que les meubles et antiquités du monde entier qui les ornaient. Les jardins, eux aussi, offrent une promenade des plus relaxantes avec un superbe coup d'œil sur le centre. Ensuite, il parle d'autres possibilités, et notamment celle de l'aquarium. Alors il dit « Apprêtez-vous à être confronté à de nombreuses espèces animales, dont les requins. » Il semble qu'il ait été médusé par le requin. Il dit que cet aquarium recèle des milliers d'espèces aquatiques, donc requins, tortues, hippocampes, autres poissons aux formes improbables, qui font écarquiller, le mot est joli, les yeux des visiteurs. Alors, il dit aussi qu'on s'enfonce toujours plus profondément dans des galeries obscures cernées par des vitres aux dimensions impressionnantes. Souvent, tout est impressionnant hein, aux États-Unis en termes de dimensions. On l'a vu tout à l'heure avec ton article sur les hauteurs.
Oui.
La vie en surface n'a cependant pas été oubliée, puisque un des parcours recrée un marais local fréquenté par des alligators, des loutres, des reptiles, des volatiles. Et il nous invite à caresser des raies et des mollusques ou carrément à plonger dans la fosse aux requins.
Oui, de plus en plus, les aquariums dans le monde proposent des expériences semblables.
Moi, j'espère que les gens qui s'en occupent ont donné à manger aux requins avant de nous laisser plonger,
oui.
Parce que je ne crois pas que ce serait une expérience que j'aurais envie de vivre. Alors, merci beaucoup pour l'intervention. Et puis, il précise aussi qu'il y a un aréna foudroyant. On ne connaissait pas encore la victoire de nos Canadiens après. Donc, ici, c'est le drame, c'est le lieu où a eu lieu le drame.
Ah, oui.
Et la belle saison du Canadien a été enterrée en trois coups de pelle à glace. Alors, comment ça se fait? Là, je ne comprends pas là, qu'ils aient gagné hier, puisqu'ils disaient dans l'article que la belle saison du Canadien a été enterrée en trois coups de pelle à glace.
Non, c'est Tampa Bay qui a perdu hier.
Oui, c'est ça.
Il a perdu contre Chicago.
D'accord. Okay. Je ne comprends pas tout dans le sport, là. Hein. Bon, alors à deux pas de l'aquarium, il dit que donc il est situé à deux pas de l'aquarium et c'est la plus grande salle omnisport de Floride qui est imposante par son architecture moderne. Cette aréna donc est taillée sur mesure pour les matchs de hockey, mais il accueille aussi le football, le basket et des concerts d'envergure. On peut même faire un petit tour sur le parvis pour en profiter et jeter un mauvais sort ou visiter le ventre de la bête. Mais, donc, voilà ce qu'il recommande. Alors, si vous aimez les cigares et que vous êtes un peu fêtard, ça rime, c'est drôle. Donc, en empruntant l'élégant tramway historique vers le nord-est de la ville, on atteint un autre quartier qu'il qualifie de grouillant, qui s'appelle Ybor City. Il dit que jadis, il était fréquenté par les communautés cubaines, espagnoles, italiennes, et que c'est un quartier qui était réputé pour son statut de capitale du cigare.
Oui, parce qu'on y trouve des Cubains.
Oui, c'est ça. Les Cubains.
Principale raison.
C'est ça, c'est pour ça. Mais maintenant, il séparait ces dernières décennies de bars, de musique, de restos et de petits cafés très bohèmes. Ensuite, il parle des gourmandises, de l'aspect gustatif qu'offre la ville. Alors, il parle d'abord de l'inimitable tarte à la lime. Laquelle tarte à la lime qui s'appelle K-Lime Pie est le dessert officiel de l'État. Il rafraîchira tous les visiteurs quand vous aurez gambadé par une chaude journée.
Qui n'a rien à voir avec la maladie de la lime, là.
Non, rien du tout, absolument, absolument. Elle est onctueuse, vivifiante et on la trouve dans différentes versions. Il parle aussi d'un brunch ou d'un dîner ou en couleur qu'on peut prendre en suivant la file qui se forme aux portes d'un restaurant qui s'appelle Deli East. Et dans ce resto, on trouve une très grande variété de spécialités américaines ou internationales qui sont à la carte et un véritable tourbillon de légumes tout frais, savoureux et protéinés. On peut aussi simplement se divertir, tout simplement. Donc, il propose différents lieux insolites. En premier, Busch Gardens. C'est un parc qui est moitié parc attraction, moitié zoo, avec quand même 3000 espèces, dont certaines issues de la savane africaine, qui côtoient des manèges renversants.
Et c'est très intéressant parce qu'il y a un monorail qui se promène à travers le parc.
Ah, c'est pour ça quand on est fatigué.
Vous êtes presque parmi des animaux à ce moment-là.
Waouh, super.
Magnifique.
Il propose par contre un autre zoo spécifique qui s'appelle Lowry Park, qui exhibe des centaines d'animaux, dont des pumas, j'espère que ce n'est pas ceux qu'on peut voir dans ce monorail, des tigres ou des lamantins. Il y a un autre point qui est un lieu insolite qui s'appelle Big Cat Rescue. Vous voyez que mon anglais n'est pas très extraordinaire. C'est un sanctuaire, ce n'est pas un zoo. C'est un sanctuaire parce que là, les grands félins sont recueillis et soignés. Et c'est aussi un refuge pour des gros matous exotiques comme les lions, les léopards, les lynx. Et il précise que ces trois lieux sont excentrés et que donc il faut prescrire une large tranche horaire pour les visiter. J'avais encore d'autres petits trucs que j'aurais aimé vous signaler, mais je vous recommande d'aller là-bas. Peut-être quand même le Tampa Theater. La mode est au cinéma multiplex, mais ce Tampa Theater persiste à ne conserver qu'une seule salle. Mais quelle salle, avec un point d'exclamation, parce qu'autour de l'écran, il y a un décor gigantesque avec des styles entremêlés qui ont été dressés. Et le tout est émaillé de sculptures, de moulures, de gargouilles et même coiffé d'un plafond étoilé. Sur la scène, en plus, il y a un orgue d'époque sur lequel on joue avant la plupart des représentations. Ce cinéma date de 1926. Il est absolument unique et projette régulièrement de grands classiques cinématographiques.
C'est intéressant de voir qu'on a encore gardé certaines vieilles salles de cette époque, alors c'est que ça. Maintenant,
surtout en Amérique,
18 cinémas, 20
exactement.
Cinémas à l'intérieur. Donc,
exactement.
On perd de plus en plus ces belles salles.
Exactement.
On avait à Montréal, d'ailleurs.
Oui, exactement. Donc, c'était un article de la presse mobile du 10 juin, écrit par Sylvain Sarrazin. Bon voyage!
C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route. Et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco. Où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera ta mala guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco. Où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté. était la clé. Peuplé de cheveux longs, de grands liés de musique, peuplé de lumière et peuplé de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous? Lisez les Lucs, Sylvia, attendez-moi.
Alors, San Francisco de Maxime Leforestier, c'est ça?
Oui.
Ah, ben voilà.
C'est superbe, hein, cette chanson-là.
Oui, oui, très jolie.
Nostalgique.
Ben, parlant de San Francisco, on va faire un tour en Californie, hein. Et oui. La Californie a soif. Mm. Alors, c'est de Nicolas Bérubé dans la presse, plus du 31 mai. Frappé par sa pire sécheresse en plus d'un millénaire, la Californie rationne l'eau. Ça, c'est du jamais vu. Les rivières sont à sec, les réservoirs presque vides, et des milliers de familles vivent déjà sans eau.
C'est incroyable. C'est
absolument incroyable. On est en Amérique. Hein?
Ouais, ouais.
Alors, vivre sans eau est si stressant, et ça, c'est une immigrée mexicaine qui nous dit ça, elle songe à retourner au Mexique. Un pays qu'elle a quitté il y a plus d'une décennie pour donner un avenir meilleur à sa famille, en aidant à récolter, comme plusieurs Mexicains, des fruits et des légumes en Californie. Et il ne faut pas oublier, c'est une récolte qui garnit les étals des supermarchés des États-Unis, du Canada, du Québec aussi. Hein? La ville sans eau est facile à trouver. Une ville où il n'y a pas d'eau du tout. De Los Angeles, vous roulez vers le nord durant à peu près 2h45, et vous passez au-dessus de la rivière Toul. Et sous les rares palmiers qui sont toujours vivants, parce que la plupart sont déjà desséchés. Alors, des gens ont baptisé la ville Bone Dry City. Bone Dry City, en fait, c'est la ville complètement à sec. À son nom de calcul, environ 10 000 hommes, femmes et enfants vivent dans des maisons qui ont plus d'eau. Et pour la majorité, le robinet a cessé de couler il y a plus d'un an. Rien. Bone dry. Alors, dans la cour d'un résident, des bouteilles d'eau vide sont empilées pêle-mêle comme un immense tas de feuilles mortes. Et plus loin, on voit une citerne géante sur un terrain, tuyau d'alimentation verrouillé avec un cadenas, parce qu'il n'y a plus rien. L'eau est plus précieuse que l'or à cet endroit. Alors, quand les robinets de la maison d'un résident ont cessé de cracher de l'eau, elle et son mari ont cru, bien sûr, que leur puits était bloqué ou épuisé.
Ouais.
Et elle a constaté par la suite, en se promenant alentour, que plus de 100 familles manquaient d'eau dans son quartier. Alors, elle a bien sûr alerté les autorités. C'était au printemps 2014, récent.
Oui.
Depuis, pratiquement pas un jour ne passe sans qu'un citoyen ou une citoyenne réalise que son puits est complètement sec. Et il y a des enfants dans ces maisons-là, hein? Des nouveaux-nés aussi. Alors, pouvez-vous vous imaginer vous occuper d'un nouveau-né sans eau courante? Ici, les gens le font depuis plus d'un an.
Comment c'est possible? Comment font-ils?
Pour s'en tirer, plusieurs fois par semaine, il y a des gens généreux, des bénévoles, qui vont distribuer de l'eau à ceux qui n'ont pas de réservoir sur leur terrain, qui n'ont pas de camion pour aller chercher l'eau, ou encore qui sont trop vieux ou trop faibles pour s'acquitter de cette tâche vitale. Incroyable, on est en Californie.
Alors,
le comté distribue 2 caisses de bouteilles d'eau potable par famille de 4 par semaine.
Des caisses de combien, on sait?
Je ne vais pas mentionner, mais ça doit être ordinairement, c'est 12 bouteilles. Donc, mais
quand vous faites
le compte, parce qu'il ne faut pas oublier que l'eau, c'est pas seulement de l'eau pour boire, c'est de l'eau pour se laver les vêtements, la vaisselle et les toilettes. Et ça compte beaucoup plus que l'eau qu'on boit, cette chose-là.
Mm-hmm.
Bien, ça fait énormément, une grande quantité d'eau. Il a fallu des mois, mais les autorités du comté de Toulard, où se trouve East Potterville, c'est la ville dont on parle, ils ont installé 16 douches portatives privées. Elles sont ouvertes jusqu'à 21 heures. Le comté tente aussi d'obtenir les fonds pour faire creuser un puits communautaire et pour bâtir un réseau de distribution dans la communauté. C'est un projet assez complexe et coûteux, qui ne verra pas le jour avant plusieurs années. Plus de 70 % des résidents de cet endroit, East Porterville, sont des Latino-Américains venus travailler dans les champs, comme la dame dont on parlait précédemment. Mm-hmm. Et certains sont aux États-Unis clandestinement.
En plus.
Ah, parce que ça explique pourquoi ils sont plus enclins à se plaindre et à contacter les autorités. La situation des Porterville est d'autant plus frappante que les communautés environnantes, qui sont reliées à un système de distribution d'eau, eux ne manquent pas d'eau. C'est le paradoxe de la crise, hein? Le jour, les gens d'ici vont travailler dans des champs, bien irrigués, pour recueillir des fruits et des légumes. Et le soir, ils rentrent s'occuper de leurs enfants dans des maisons qui n'ont plus d'eau. Alors, et il ne faut pas oublier que la Californie, c'est un véritable potager pour les Canadiens. Hein? C'est l'une des régions agricoles les plus développées et les plus productives du monde. Et même nous, ici, le Québec en dépend, parce que la sécheresse fait mal. Aux agriculteurs.
Comment est-ce qu'il y a des chiffres qui sont donnés précisément pour dire comment ça peut nous faire mal?
C'est assez étonnant. Hein? La Californie est à 4000 km du Québec. Donc, on dit, oh, c'est très loin. Or, l'État joue un rôle primordial dans notre alimentation. Des exemples. Mm-hmm. La Californie produit 84 % du brocoli qui est consommé ici, chez nous. 68 % de la laitue, 76 % des fraises, et 89 % des amandes consommées. Je ne vous parlerai pas des amandes, je laisse à mon collègue Yvan le soin d'en parler. Vous allez voir qu'est-ce que ça exige comme quantité d'eau, c'est phénoménal. L'Américain moyen, bon, j'imagine que le Canadien, c'est semblable, consomme plus de 1100 litres d'eau de la Californie chaque semaine, seulement en mangeant de la nourriture qui a été produite. Et c'est 1100. 1100 litres d'eau. Avec la sécheresse, des agriculteurs qui reçoivent leur eau par l'entremise d'un système complexe de canaux d'irrigation en provenance du nord de la Californie et du fleuve Colorado ont dû renoncer à arroser certains de leurs champs et qui sont aujourd'hui en friche, donc en péril. Depuis 2011, la sécheresse est tellement prononcée que les agriculteurs pompent l'eau sans qu'elle soit remplacée naturellement. La nappe phréatique, ils pompent la nappe phréatique. Ce faisant, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Hein?
Ouais.
C'est comme vider son compte en banque, dans le fond. L'État a voté une loi afin de rétablir l'équilibre dans les nappes phréatiques pour l'année 2042.
Oh, oh, oh.
Pour permettre à la nappe phréatique de se...
revigorer. C'est loin, hein?
Donc, c'est très sérieux. Ça fait des années que la sécheresse empire. Il va falloir agir tôt pour éviter une catastrophe parce qu'on a déjà l'impression qu'on a trop attendu.
On y est déjà.
C'est ça. Alors, c'était tiré d'un texte par Nicole Bérubé dans la presse plus du 31 mai.
Bien, c'est une découverte qui a été faite par des chercheurs canadiens dont je vais vous parler. Et il s'agit d'une enzyme qui va changer le groupe sanguin. Alors, pour bien comprendre ce dont il s'agit, il faut se rappeler qu'il existe quatre groupes sanguins, A, B, AB et O. Et il faut se rappeler aussi que les globules rouges portent à leur surface des antigènes de groupe sanguin qui définissent notre appartenance à un groupe donné. Bon, donc le groupe A, il possède un antigène A à la surface de ses globules, le B, des antigènes B, AB, des antigènes à la fois A et B, et un sujet de groupe O ne possède ni l'antigène A ni l'antigène B. C'est une enzyme donc qui est capable, qui aurait été trouvée, de transformer du sang de groupe A, B ou AB en sang de groupe O qui a été conçu par des chercheurs canadiens. Quel est l'intérêt ? D'abord, de pouvoir à terme obtenir un sang de groupe O, celui des donneurs universels, parce que le groupe O est donneur universel, mais il faut que ce soit O moins. Et pour transformer du sang appartenant à n'importe quel groupe en sang de groupe O, qui pourrait donc être perfusé à n'importe quel malade sans réaction immunitaire, ça serait quelque chose d'une véritable prouesse qui pourra peut-être être bientôt d'actualité. Pour cause, des biologistes ont conçu cette enzyme capable d'agir sur le sang du groupe AB ou AB et O. Voilà la découverte en question. Merveilleux.
Alors, je parlais d'épidémie de voyage. Comment savoir si vous êtes atteint? Bien, il y a des signes cliniques qui permettent de croire que vous êtes atteint. Par exemple, vous préférez acheter un billet d'avion plutôt que de remplacer votre vieux canapé ou votre vieux sofa chez vous. Bah, c'est une chose. Vous avez mis fin à une relation prometteuse parce que l'être aimé trouvait que vous partiez trop souvent. Bah, et quand vous les croisez, vos connaissances, en eux, je me reconnais, ne vous demandent pas comment vous allez, mais où vous allez.
C'est vrai.
Alors voilà, si vous avez répondu vrai à ces annonces, une visite à votre agent de voyage. Et vous devriez le faire. Voilà. J'espère que nos sujets vous ont plu. On essaie d'être le plus varié possible.
Intéressant.
Merci à André de m'accompagner. Et merci à Mathieu Tessier d'être présent. Son sourire nous éclaire énormément. Merci. Et je pense que Yvan avait choisi des musiques qui sont toujours intéressantes, notre collègue. Ben, écrivez-nous. On vous lit. Hein. On lit tout ce que vous envoyez. canalm.org. Alors, on vous souhaite une très bonne semaine.
Bonne semaine, merci à vous tous.